Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le point.
À 11h du matin, rives et eaux sont au soleil. Le bleu de la mer se diffracte entre turquoise et bleu roi. Sa transparence, tout au bord, se nuance de rayons dorés. Se dessinent des embranchements, des massifs, des mirages de châteaux, déchiquetés par les courants. Entre des escarpements verdâtres, flottent des poissons de formes et couleurs diverses. Je crois distinguer, parmi eux, le poisson scribe, par sa silhouette arrondie et surtout par ses traits à l'encre brune qui strient son revêtement de fines écailles. Il forme des lignes d'écriture irrégulières, échevelées, mais sur un fond de calme, un fond d'éternité. Le poisson scribe est le sismographe de mystères interdits à l'œil humain. Il ne trahit rien d'en faire le signe extérieur de son être, puisqu'entre son monde et le nôtre ne s'établira jamais un système d'équivalence. Le temps que je me déshabille et me jette à l'eau, le poisson scribe a disparu, offert à de mouvants messages giclés des profondeurs. Alors, j'ai commencé de nager vers le large, le long de la côte. J'ai dépassé le fanal de fleurs violettes, la muse mutilée, la piscine de Kafka, la folie de l'anglais, la terrasse du dernier jour de bonheur de Casanova et les reflets de demeures anciennes au salon de musique depuis longtemps abandonné. Des petites filles m'ont fait bonjour de la main. Un cormoran a émergé presque sous mon nez. J'ai poursuivi, swimmingly, nageusement.
Bonjour Chantal Thomas.
Bonjour Valérie Marin-Lemélé.
Et merci pour cette lecture extraite de votre dernier bébé nageur, si je puis dire, soit Journal de nage, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Alors le chemin du jeu, J-E, s'est augmenté de plusieurs livres depuis Souvenirs de la marée basse, où vous décriviez votre mère, amoureuse de la natation, passion dont vous avez hérité, suivie de Sable et de neige avec le portrait d'un père trop tôt disparu, et bien d'autres depuis, qui commencent à former comme un portrait de vous, né donc le 20 janvier 1945 à Lyon. Un portrait au milieu de ceux que vous lisez, que vous étudiez, que vous rencontrez dans votre vie voyageuse. Surtout, je vous dis un immense merci pour avoir traversé tout Paris depuis vos buts de Chaumont jusqu'au studio du Point dans ces journées de juin 2022 tellement remplies puisque jeudi 16 à 15h, Dany Laferrière vous reçoit sous la coupole au fauteuil numéro 12, celui de Jean d'Ormesson. Et on a déjà envie de chanter « Il y a de la joie » tant ce sentiment traverse vos trois univers, envers et contre tout. Alors, votre parcours, nous allons y faire quelques étapes au long de cette causerie. En prenant pour guide les lettres de l'alphabet, qui est votre matière première, et une matière qui vous a mené à l'Académie française. Et bien justement, on va commencer par l'Académie, et par une simple question, quel chemin vous a mené à l'Académie, ou est-ce que c'est l'Académie qui est venue à vous? Comment ça s'est fait?
C'est un peu dans les deux sens, mais le chemin qui m'a mené vers l'Académie, il est assez ancien, puisqu'il est lié à une sorte de rêverie à partir de textes du XVIIIe siècle. Et à travers les lettres, surtout de Madame du Deffand, ou de Julie Lespinasse, mais surtout Madame du Deffand, la manière dont elle se passionnait, ses femmes, pour l'Académie française, les discours d'Académie, les élections. Et je me disais que c'était un peu triste quand même qu'elle ne vive ces histoires que par procuration, que d'une manière indirecte. Et donc, en les lisant, je me disais, mais au fond, elles n'osent même pas se projeter, elles ne peuvent pas même en penser se projeter vers elle, élue à l'Académie française. Et j'ai appris depuis qu'il y avait eu une proposition que Julie Lespinasse entre à l'Académie française, mais ça avait été immédiatement rejeté.
Ah bon?
Oui, oui. Par D'Alembert, qui d'ailleurs avait précisé qu'on devrait garder sur les 40 sièges de l'Académie 4 pour les femmes.
Ah ben on y est.
Oui, c'est très étonnant. Donc c'est en rêvant un peu le XVIIIe siècle, en passant devant le bâtiment, qui est d'une beauté incroyable, que l'Académie française est entrée un peu dans mon univers, mais sans que je rêve ou songe même à y entrer. Et c'est la présence de certaines personnes et les élections successives de quelqu'un comme Jean d'Ormesson ou Daniela Ferrière ou Éric Orsena ou Daniel Salnave, des personnes avec qui je travaille ou en pensée en tous les cas, ou Florence Delay, qui m'ont... je me suis dit, en fait, c'est aussi un espace contemporain de personnes qui font des choses passionnantes. Où je vois Barbara Cassin qui était au CNRS. Donc, il y a comme des espaces intellectuels partageables.
Alors, on aurait pu poursuivre à la lettre A, avec Arcachon, qui est votre ville chérie, avec l'amour libre aussi. Mais on va passer, comme nous n'avons pas un temps fou, à B comme Barthes, comme Thomas Bernard, comme Nicolas Bouvier. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui, à cet instant, vous poser la question, après votre pour Roland Barthes exercice d'admiration envers cet écrivain hypersensible, amoureux de la langue, de la littérature et de la photo, dont vous avez été l'étudiante, est-ce qu'on peut vous demander, bien des années après, comment résumer ce que vous devez à Roland Barthes ?
Je lui dois le désir explicite d'écrire. Et je crois que jusqu'à ce que je le rencontre, vers 1978, un peu avant, sans doute je désirais écrire, mais je ne me le formulais pas exactement. Et c'est avec lui, quand j'ai proposé un sujet de thèse sur Sade, et la manière dont il a répondu, c'est-à-dire non en directeur de thèse, mais en écrivain, que j'ai senti que c'était le chemin ou le cheminement qui me passionnait. Et je lui dois cette manière d'être un peu en retrait, d'être le contraire d'un professeur autoritaire et surplombant, et de se placer tout de suite dans un rapport de complicité d'écriture. Et je lui dois aussi sa direction majeure, qui est de ne jamais séparer la recherche intellectuelle de l'émotion.
Ce qu'on sent beaucoup dans votre dernier livre encore, dans Journal de nage, Chantal Thomas. Alors, Thomas Bernard, vous avez écrit justement « Je m'avançais dans le monde ». Vous avez écrit qui l'avait écrit ?« Je m'avançais dans le monde, virgule, un livre à la main ».
Oui, c'est une phrase magnifique. Et lui... il l'écrit en particulier quand il évoque ses années de maladie, de sanatorium, de suspense au bord de la mort, et comment les livres, et là il pense à Dostoïevski, l'ont littéralement sauvé et lui ont donné la force de traverser ça. Mais moi, quand je cite cette phrase, je pense à un rapport beaucoup plus continu au livre, et comment le livre nous sépare pas du monde, mais c'est une manière d'aller dans le monde, mais d'y aller différemment.
Et pour Nicolas Bouvier, vous avez parlé dans un autre livre, dans Café Vivre, je crois. Vous dites, j'aime la manière dont Bouvier fait du voyage la vérité de l'existence.
Oui.
Et vous ?
Oui. Ah, on parlait de Roland Barthes et de ma rencontre avec Roland Barthes, mais avant cela, ma vraie vocation, c'était voyager. Et sur le mode de Bouvier, qui était, c'est pas vraiment le but qui compte, mais c'est tous les incidents de parcours, toutes les points où on se perd, où on dévie, et la recherche de l'étrangeté, de ne pas comprendre. Les voyages de Nicolas Bouvier sont pas du tout culturels, c'est des voyages un peu sauvages, et j'adorais ça.
Il y a aussi, si on prend à la lettre C, plein de possibles, comme pour toutes les lettres de l'alphabet. Et il y aurait pour vous peut-être café ou Casanova. Étant donné que vous avez écrit des livres magnifiques sur les cafés, que ce soit les cafés de la mémoire ou plus récemment Café Vivre, et aussi des livres magnifiques sur Casanova, je vous laisse le choix.
Ouais, café, alors. Puisque je viens juste d'en prendre un. Et je trouve que l'importance des cafés nous a été révélée, je pense, au moment du confinement, quand tous les cafés étaient interdits. Et que la ville était une sorte de mur continu, sans aucun abri. Et je crois qu'à ce moment-là, une grande partie de la population a réalisé combien aller au café était un besoin quasi vital. Et comment le café est à la fois, c'est merveilleux, parce que c'est à la fois un espace communautaire, on peut s'asseoir, regarder les autres, inventer des histoires par rapport à eux, et aussi un espace solitaire. On peut aussi se créer une sorte de parenthèse de silence et de réflexion à l'intérieur d'un café.
Est-ce que ce n'est pas la manière dont vous écrivez aussi ?
Oui, exactement, exactement. Je vais beaucoup dans les cafés et je n'écris pas des textes continus dans les cafés, mais j'aime prendre des notes ou faire un article dans les cafés. Mmh. Je trouve ça très tonifiant.
Alors, on avance à la lettre D et on va trouver peut-être Essa de Casanova et votre chère Marie-Antoinette. Si on prend l'adjectif ou le qualificatif, je ne sais pas comment on appelle ce mot de 18e-iste.
Ah, alors, je parlerai volontiers de Marie-Antoinette j'ai découvert des recherches sur Marie-Antoinette à partir des pamphlets, donc, contre Marie-Antoinette. Et j'ai été, au fur et à mesure de leur découverte, stupéfaite et choquée par la violence qui, à peu près tout au long de son existence, de sa courte existence, l'accompagne. Et comment elle a été vraiment le bouc émissaire. D'abord à l'intérieur de la cour, parce que ses pamphlets sont commandé par quelqu'un qui connaissait très bien la cour, sans doute le frère du roi, et ensuite orchestré selon une vraie campagne. Et commence peu à peu, va se construire le personnage d'une reine haïssable et responsable de tous les maux de la France. Et les deux points d'attaque étant évidemment la misogynie et la xénophobie. Elle est l'étrangère et elle est celle qui dépense. On porte sur elle tous les défauts traditionnellement dont on accuse les femmes. Mmh. C'est-à-dire la dépense, la frivolité. On l'accuse aussi d'être mauvaise mère, ce qui est absolument le contraire. Mais tout ce qu'on, elle est comme une version noire de la femme et de la reine. Et en plus de la favorite.
Et vous avez donc écrit ce livre magnifique, Les adieux à la reine, qui a été aussi adapté au cinéma. Elle vous accompagne toujours ou est-ce que vous lui avez dit aussi adieu à elle pour passer à autre chose ou...
Le film de Benoît Jacquot, en la rendant plus présente aussi à un plus grand public, me l'a aussi rendu une compagne plus contemporaine. Donc, je pense à elle, mais à travers, évidemment, la narratrice, c'est-à-dire la lectrice adjointe. Donc, je pense à... Oui, je suis accompagnée par une certaine idée de Versailles, à la fois de la splendeur de Versailles et de la... d'un monde qui s'achève avec Marie-Antoinette. Donc, oui, quelque chose continue.
Alors, vous ne croyez pas, chère académicienne, qu'à la lettre D, nous allons nous passer du dictionnaire. Donc, quand vous écrivez, est-ce que vous vous servez du dictionnaire ?
Oui, je me sers du dictionnaire, pas énormément.
Et quel est votre mot préféré ? Vous avez le droit de...
Comment ? Océan.
Alors, je crois qu'à la lettre F, vous avez beaucoup parlé déjà des femmes et de celles que vous avez à la fois fait mieux connaître, rendu plus proches, justement, comme Madame de Staël, la marquise de Rambouillet. Les femmes que vous avez aimées aussi, dans une vie ou dans une tranche de vie bisexuelle. Est-ce que vous avez en ligne de mire, ou de ce que vous voyez dans la société, un combat encore à mener, ou quelque chose qui vous tiendrait à cœur pour les femmes ?
Oh ben, il y en a plusieurs. Il y a d'abord ce qui est en train de se passer aux États-Unis, où le droit à l'avortement va certainement être suspendu. En tous les cas, il sera décidé pour chaque État. C'est-à-dire que la moitié des États américains vont voter contre. Et donc c'est une réelle horreur. Donc il y a une régression. Depuis 1976, c'était possible. Donc il faut dire que 50 ans de liberté ou de possibilité de disponibilité de son corps vont être... on met une croix là-dessus. Donc oui, ça, je trouve que c'est un combat à mener, et pas seulement dans ce pays. Je peux penser aussi à la Pologne. Donc oui, je pense que le droit à l'interruption volontaire de grossesse est un combat actuel.
Ce qu'on n'imaginait pas forcément, mais...
Non.
Enfin, aux États-Unis, du
C'est comme moins, à reprendre des victoires qui ont été... que Simone Veil, en tous les cas, avait bien établi en France. Et je souligne que quand Simone Veil a été reçue à l'Académie, il y avait dehors une centaine de gens qui manifestaient contre le droit à l'avortement. Quand même, en 1901, oui.
Alors, à la lettre J, nous pourrions parler de Jackie, votre mère. Nous pourrions parler du Japon, où vous nous avez emmené aussi. Je le cite pour qu'on continue à voyager à travers vos livres. Mais allons tout de suite à la lettre L comme liberté. Le premier de vos essais, je crois, c'était « Comment supporter sa liberté », paru en 1998. Et ça, je le conseille à absolument tout le monde, dans la mesure où ça reste un manuel de savoir s'émanciper de tout, y compris de soi-même. C'est surtout peut-être de soi-même. Alors, ma question, c'est dans les honneurs que vous recevez peu à peu, prix, jury et maintenant académie, est-ce qu'on n'y perd pas un peu de cette liberté chérie ? Et ma question, c'est pas comment la supporter, mais comment la préserver ?
Je ne me pose pas vraiment, parce que d'abord, ces honneurs et ces fonctions, elles occupent une parcelle de temps qui est quand même très, très, très... qui n'est pas envahissante. Et on peut dire aussi que le travail de chercheur au CNRS ou en enseignement prend du temps. Donc l'essentiel dans toutes ces histoires, dans tous ces événements qui nous arrivent à la fois de l'extérieur mais qu'on a choisi, c'est de garder intérieurement une disponibilité, une distance, le sens des évasions et le jeu des associations d'idées.
Alors, à elle, il y a aussi donc la ferrière d'Annie, qui vous accueille sous la coupole, Chantal Thomas. Et vous disiez que, comme beaucoup de gens qui aiment les cafés, il a le sens de l'éphémère et de la fragilité du rapport au monde, et du même coup de sa force poétique. Alors, cet éphémère, c'est ça qui pourrait vous rapprocher tous les deux. Et en même temps, vous accédez à l'immortalité littéraire. Et ma question, c'est comment est-ce qu'on est à la fois... dans complètement dans cet instant et dans ce goût de la vie, de cette jouissance, et comment on arrive à mener un chemin qui s'appelle de l'extérieur une carrière.
Je pense que d'abord l'immortalité dont il s'agit, c'est l'immortalité de la langue française. Donc c'est quelque chose à quoi profondément j'adhère, et Dany Laferrière aussi. Cet amour de la langue et cette manière de se laisser porter par, à la fois par une histoire vécue, par notre histoire, et par notre histoire avec le langage. C'est une histoire avec le monde et avec le langage, indissociable. Et pour moi, la fantaisie et la force d'humour aussi, des textes de Dany Laferrière, sont pas du tout antithétiques d'aucune institution, surtout pas de l'Académie française, qui est, d'après ce que j'ai entendu dire, une compagnie où l'amitié compte beaucoup, où le rapport au rituel, à la tradition, structure un certain en tout cas une certaine profondeur de mémoire. Et je pense que ça, aussi bien la mémoire que le rapport à l'instant, c'est comme deux pôles d'une recherche qui nous rapproche, je crois, Daniela Ferrière et moi. On veut les deux.
Alors justement, dans le bruit des langues, puisque vous intégrez cette institution qui a pour objet justement la langue française, dans le bruit des langues qui vous a accompagné dans tous vos périples, quel est celui du français? C'est quoi la musique du français? Qu'est-ce qui, pour vous, l'incarne ou le quand vous pensez...
Une musique, c'est une musique tellement intérieure que je ne l'entends pas extérieurement. Et d'ailleurs, que j'avais beaucoup de mal à donner des cours de français, à vrai dire.
Ah bon ?
Oui, parce que je me sens tellement consubstantielle à ma langue qu'en faire un objet me troublait, mais n'était pas du tout spontané. Mais si je pense à la musique du français, je pense aussi à la musique chantée. Je pense par exemple à la manière dont Léo Ferret chante Verlaine. Mm-hmm. Pour moi, c'est une sorte de point de perfection entre une voix et une musicalité d'écriture poétique. Je penserais la voix de Ferret.
Et en littérature, alors comme le grand L, je renvoie directement justement à votre littérature. Et jusqu'au dernier livre, Le journal de nage, où Kerouac voisine avec Kafka, Casanova et même Déborah Lévy, avec cet art que vous avez de nous faire lire ou relire de manière très, très gourmande. Alors, N, comment éviter le mot nager, qui rime aussi avec Nice, mais là c'est pareil, vous écrivez si bien sur la nage que je laisse les auditeurs et auditrices se régaler de vos livres. En revanche, je veux bien faire une étape à New York, parce que c'est votre seconde ville, vous nous y aviez emmené dans le livre...
East Village Blues.
Merci. Et vous nous y racontiez aussi votre premier séjour avec Sandra, donc aux États-Unis. Voilà. Qu'est-ce qui se passe entre New York et vous, Chantal Thomas?
Bon, il s'est passé vraiment un éclair de l'éclair d'un coup de foudre, si je puis dire. Parce que j'y étais allée juste pour un mois, le mois de juillet, juste quasiment le lendemain de ma soutenance de thèse avec Roland Barthes. J'avais mon petit billet en poche et tout quand j'ai soutenu ma thèse. Et je suis partie et je suis revenue après à Paris, bien sûr, plusieurs fois. Mais j'ai voulu y vivre. Et presque en arrivant, je suis tombée amoureuse d'une femme qui m'a hébergée, que je ne connaissais absolument pas. Une amie m'avait donné le numéro de téléphone. Donc 3 jours après, j'étais chez elle et voilà. Et je me suis dit, c'est comme ça, New York. Bon, c'était une époque extrêmement ouverte, disons, à tout. Ce qui m'a sidéré aussi, c'est la manière dont, sans interdit intérieur, sans aucune frustration à surmonter, les poètes se déclaraient poètes. Lisaient leurs poèmes à Washington Square, dans des cafés. Il y avait une effervescence à la fois musicale, c'est le moment où Patti Smith commence, ou Lou Reed, une effervescence à la fois musicale et aussi d'écriture. Mm-hmm. Et c'est les deux à la fois qui m'ont quand même fait beaucoup d'effet. Ginsberg était dans le quartier, il était évidemment très présent. Donc après le Paris, qui est quand même assez feutré, même à ce moment-là, le séminaire de Barthes qui avait quelque chose d'un salon, j'ai trouvé extraordinaire l'ouverture de Central Park ou de East Village. Mmh.
Et par rapport à ce que vous dites de l'ouverture en général et cette liberté, cette absence de censure, vous avez une réflexion à faire sur la façon dont tournent les choses aujourd'hui dans ces domaines?
Oui, c'est d'autant plus. Enfin, je dois dire que ce retour de la censure, des sanctions, c'est quelque chose d'absolument épouvantable.
Alors on passe à O, comme Jean d'Ormesson.
Ah.
Quelle surprise. Donc Jean d'Ormesson, au fauteuil duquel vous succédez, Chantal Thomas. Un regard pétillant, une bibliographie imposante, une séduction sans... Enfin, extraordinaire, un appétit de la vie. Alors, que, par quel biais on aborde ce monument ? Est-ce que vous, déjà, vous l'avez rencontré ?
Je l'ai rencontré à peine. On a échangé 2-3 mots. Donc, il n'y a pas eu de vrai échange. Les vrais échanges ont été entre les livres, et c'est ça qui compte. Donc, je lui ai envoyé certains livres, il m'a répondu des petits mots très jolis. Mais le véritable échange, il a été à partir du moment où je me suis tournée vers le roman historique et où j'ai lu « Au plaisir de Dieu » ou « La gloire de l'Empire ». Mais plutôt, ce qui a beaucoup compté pour moi, c'est « Au plaisir de Dieu ». Et là, j'ai découvert quelqu'un qui était à la fois l'héritier direct et par la famille du XVIIIe siècle, et même au-delà, et qui était hyper présent dans les médias, dans la vie contemporaine. Et j'ai trouvé que la manière dont il a su jouer des deux est extraordinaire. Mais pour être plus proche de son écriture, puisque c'est ce qui m'intéresse vraiment, ce que j'aime vraiment, c'est cette façon de faire le choix de la gaieté et de faire le choix d'un rapport sensuel et enthousiaste à la vie.
Alors à S, donc il s'agit de S comme souffrir maintenant. Donc en 2003, vous publiez ce livre qui réunit les portraits de femmes et d'hommes aussi qui se débattent ou se délectent de toutes sortes de souffrances. Vous faites allusion d'ailleurs dans votre dernier livre Journal de nage, Chantal Thomas, au masochisme, en disant que c'est une passion dévalorisée. Alors je voudrais savoir en quel sens vous dites ça, et je pense là à un autre académicien qui aurait 100 ans cette année, qui est Alain Robbe-Grillet. Est-ce que vous pouvez éclaircir ce mot et ce que vous mettez derrière presque ce regret du masochisme?
Quand je dis que le masochisme, ou j'écris que le masochisme est dévalorisé, je précise par définition. C'est pas une passion glorieuse, c'est une passion juste précisément qui se nourrit d'être dévalorisée. Et sa forme littéraire la plus extraordinaire, c'est évidemment Justine de Sade, où Justine traverse exactement les mêmes aventures que Juliette, mais en tant que victime. Juliette subissant d'ailleurs presque les mêmes affreux sorts, enfin pas tout le temps, mais Juliette, elle, en fait un principe de jouissance. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est que c'est les mêmes situations qui divisent le masochiste du libertin. Mais ce que je voulais dire quand à l'idée que le masochisme était dévalorisé, c'est que beaucoup de situations dans lesquelles on se trouve et dans lesquelles on stagne, on ne les interprète pas comme notre propre désir. On les interprète comme l'effet d'une injustice ou d'une malchance. Alors qu'il arrive, malheureusement, et beaucoup d'histoires de femmes battues ou assassinées et sont liés à ça, il arrive qu'il y ait un lien masochiste et que de ne pas se le dire renforce ce lien. Donc je pense que réfléchir sur le masochisme, c'est très éclairant et très libératoire.
Mmh. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans ce livre « Souffrir » qui nous dit aussi que sous la joie et la gaieté, il y a évidemment dans tout être humain, y compris chez Chantal Thomas, de la souffrance.
Oui.
Alors justement, à propos de Chantal Thomas, puisqu'on arrive à T, je voudrais savoir comment vous avez vécu votre homonymie avec la styliste.
Il se trouve qu'on a le même âge et qu'on a traversé vraiment les années 68 avec le même enthousiasme. Et je trouve très beau que pendant que moi je découvrais Sade, Casanova, tous les chemins libertins possibles, elle réalisait cette révolution dans les sous-vêtements, passant d'un registre très triste à un registre léger, inspiré, plein d'humour aussi.
Coquin, oui.
Donc, pour moi, c'est assez... Ça a un sens. Mmh. Et quand j'ai fait l'exposition sur Casanova, avec Marie-Laure Prévost, c'est Chantal Thomas qui a fait les petits cartons d'invitation. Et après, on s'est rencontrés une ou deux fois. Mais elle est une femme... Elle est vraiment une femme qui, d'abord, est réellement passionnée par l'histoire du vêtement en général et qui aime profondément le travail de création. Donc, bon. Ça m'est sympathique.
Bon. Et alors, du coup, j'embraye sur le look, c'est-à-dire l'habit, l'épée de l'académicienne. Comment on se projette dans ce qu'on pourrait voir comme un déguisement, enfin, du moins dans ce rituel. Quels ont été vos choix?
Alors, je n'ai pas beaucoup de pulsions à me projeter. Je vis les choses au fur et à mesure. Et je n'avais pas beaucoup réfléchi sur l'habit d'académicien ou d'académicienne. Mais quand, parmi les choix possibles, il y a eu Chanel, j'ai désiré pour la ligne si pure et aussi pour l'événement assez extraordinaire pour moi de revêtir cet habit brodé, extraordinairement bien brodé. Ouais. Et c'est à la fois un déguisement et quelque chose de simple.
Et l'épée?
C'est un éventail.
Un éventail.
Donc c'est un clin d'œil au Japon et à ce que j'aime du Japon, c'est-à-dire justement l'inverse de ce qu'on pourrait... crainte par rapport à l'académie, une certaine pesanteur ou rigidité. C'est la légèreté.
Et avec le temps qui passe aussi, comment voyez-vous l'âge?
Alors, c'est ce que je viens de vous dire par rapport à ne pas se projeter. C'est-à-dire...
vous ne le voyez pas.
Je ne me projette pas vers... j'ai pas des visions temporelles fortes. Je suis assez dans le moment.
Alors, on aurait pu aller jusqu'au V de Versailles et aussi au-delà des lettres, vers les images, le cinéma, les photos qui font aussi partie de vos livres. Il y a un des derniers romans de Béatrice Beck qui est intitulé « Plus loin, mais où ?». Est-ce que cette phrase vous inspire?
Oui, je pense qu'elle est sans réponse. Elle est « Plus loin, mais où ?», oui. Mais plus loin, en tous les cas.
Ouais. Voilà. Alors, plus loin et toujours avec les mots qui sont les vôtres et qui sont vraiment porteurs de quelque chose de très précieux. Exemple, chaque matin contient une occasion de départ et une chance d'aventure émotive, intellectuelle, la recherche d'une certaine qualité de vibration. Je pense, Chantal Thomas, que ces vibrations ont résonné pendant cet entretien dont je vous remercie beaucoup. Et que l'Académie vous garde telle qu'en vous-même, nageusement.
Oh, merci.
Merci beaucoup.
Le point.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.